Nous avons toujours les objets de conscience qui changent, qui sont quelquefois agréables, quelquefois désagréables, ou juste à peine remarqués ou pas remarqués du tout. Et nous avons cette pleine conscience qui reçoit l'expérience. Et c'est une manière de voir, ou plutôt d'être à l'écoute, des choses qui arrivent, qui vivent et qui passent. Et les choses arrivent, vivent et passent d'une manière extrêmement rapide. Un son fait plouf plouf. Une parole fait plouf plouf. Mais aussi quelquefois d'une manière très longue. Un état d'âme peut durer longtemps. Et il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire revenir. Suivant la sensibilité de l'instant, il suffit que nous pensions à quelque chose pour que ce phénomène de contact, perception, ressenti et identification, ou non, s'installe. Et c'est tellement important d'approfondir cette pleine conscience, de questionner quelle est l'expérience, elle est quoi pour vous justement cette expérience? Corps, cœur, mental et conscience elle-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous là justement. J'espère, en tout cas, qu'il n'y a personne qui dort profondément juste maintenant. Pas encore. Et le but, c'est de connaître expérimentalement, empiriquement, pour qu'il y ait une réalisation. Et la réalisation, c'est ce lâcher prise holistique où en même temps, le corps, le cœur, le mental lâche, la conscience lâche, la conscience devient claire et juste réceptive. Elle a moins besoin de se focaliser sur un objet, un autre. Et le but, c'est ça, c'est cette simplicité et cette immense ouverture du cœur à toutes les expériences intérieures et extérieures. Et pour pouvoir réaliser totalement cette compétence, il faut connaître l'expérience et les outils que nous avons, les obstacles. C'était l'exercice pour cette semaine. Le fait de reconnaître les obstacles, certains le font depuis longtemps, pour d'autres c'est nouveau, permet de ne pas connaître l'expérience en termes de moi, mais en termes d'expérience, d'être dans une connaissance qui est plus universelle qu'identifiée. C'est ça que nous apprenons. Plutôt que ce soit mon expérience, il y a cette expérience. Et dans ce que nous pouvons observer, il y a les obstacles qui sont, on pourrait dire, des expériences douloureuses, insatisfaisantes. Ça nous cause de la peine, peut-être pas une peine extraordinaire, mais enfin quelque chose de déplaisant. C'est pas ce que nous souhaitons installer dans nos vies. Et il y a ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil. Quand il y a la joie ou une bonne énergie, du discernement, du calme, de l'équanimité, ou vraiment une bonne concentration, alors l'expérience est agréable, elle est plaisante, elle nous paraît bénéfique, elle est bénéfique. C'est quelque chose que j'aimerais bien installer dans ma vie. Mais les deux expériences, que ce soit les obstacles ou les facteurs de l'éveil, ce sont des réalités. acceptées, mais elles sont conditionnées. Un facteur de l'éveil peut vite changer si les conditions extérieures changent. Ou si tout à coup il se passe quelque chose dans mon corps ou dans mon mental. Ce qui est non conditionné, c'est ce qui est au-delà de l'expérience bénéfique ou non bénéfique, même spirituellement. Alors comment vivre cet au-delà, cette libération du moi? Et la pleine conscience nous donne la clé. Le seul endroit où nous pouvons le vivre, c'est ici et maintenant. Quand je commence à vraiment comprendre, c'est-à-dire prendre en moi le fait que ce que je contemple, je le contemple de manière tellement, ça change tellement vite que la saisie est absolument impossible, sauf en termes de pensée. Je peux saisir l'expérience en termes de pensée, mais en termes d'expérience elle-même, c'est juste chaque cellule du corps se transforme à chaque instant. Et c'est toujours possible d'être dans cette libération de la saisie conceptuelle. C'est toujours possible. L'attention pure est toujours possible. C'est ce qui est merveilleux avec le bouddhisme. Je peux toujours sentir mon derrière sur la chaise. Pour autant que je m'en souvienne et que j'ai la sagesse de savoir que c'est utile. Il n'y a pas besoin de méditer pour être libéré du moi, mais nous méditons parce que nous ne sommes pas libérés. Il y a à transformer cette avidja, cette ignorance qui fait que je pense que je suis ça, que l'autre est ça, et que j'en viens à des généralités, alors qu'au fond les généralités sont une manière de nous rassurer par rapport à cette impermanence qui est douloureuse pour le moi, mais qui est tellement bienfaisante pour la vérité. Donc nous développons l'intérêt pour l'expérience, pour le changement perpétuel de l'expérience, et nous apprenons à voir que de vivre des obstacles c'est utile pour progresser, et que de reconnaître les facteurs de l'éveil c'est important pour ne pas vivre petit. Nous avons une drôle de tendance de donner beaucoup d'importance aux événements négatifs dans nos vies ou aux expériences négatives dans l'instant. Et ça nous rend petits. Mais nous pouvons aussi donner de l'importance au fait que, même s'il n'y a pas eu de la pleine conscience ou de la concentration toujours dans un moment d'assise, il y en a eu beaucoup. En tout cas, il y en a eu. Et dans nos vies, toutes les choses bénéfiques que nous faisons, ou toutes les choses non bénéfiques que nous pourrions faire et que nous nous abstenons, c'est quand même à reconnaître. Il y a Ajahn Chah qui... J'ai une petite parole d'Ajahn Chah. Un des disciples d'Ajahn Chah réparait un cassettophone quand il toucha accidentellement deux fils alors que la prise était encore connectée. Il reçut un choc et laissa tomber l'appareil immédiatement. Ajahn Chah sourit et dit « Ah, comment se fait-il que tu aies pu lâcher ça si facilement? Qui t'a dit de le faire ?» Quand nous vivons des obstacles, le corps et l'esprit, d'une certaine manière, est beaucoup plus mobilisé pour le lâcher prise que quand tout va bien. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a. Des fois, ça va ensemble. Hein, les obstacles et les facteurs de l'éveil peuvent aller ensemble. Mais quelquefois, nous pouvons vraiment bénéficier d'une expérience de calme ou de joie. Ou de... Et c'est important de la reconnaître, voir comment, si l'esprit est en conflit quand il y a des obstacles, il est en paix quand il y a ces facteurs de l'éveil. Et se réjouir, ça ne veut pas dire s'agripper, mais ça veut dire vraiment s'ouvrir, comme je peux vraiment m'ouvrir lorsque l'expérience, comme je peux parfois vraiment m'ouvrir lorsque l'expérience est douloureuse. Et la joie, c'est le premier des facteurs, c'est aussi dans l'exercice de la méditation, c'est souvent simplement cet intérêt qui fait que il y a de la sagesse derrière. Je sais que ce n'est pas ailleurs ou autrement. Et il y a l'intérêt pour l'expérience ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'au début, le moine n'a aucune envie d'avoir de l'intérêt pour l'agitation. Il n'a qu'une envie, c'est que cette agitation s'arrête. Mais quand je mets ensemble l'obstacle et le facteur de l'éveil, ok, il y a de l'intérêt pour cette agitation. Alors, l'agitation se sent reconnue et c'est ça qui va lui permettre à terme de lâcher. L'intérêt, ça a beaucoup à voir avec l'espace de réceptivité, avec l'ouverture, ce questionnement. Qu'est-ce qu'il y a là? Et bien sûr, c'est lié à l'équanimité, c'est un autre des facteurs de l'éveil. Questionner qu'est-ce qu'il y a là, même quand ça change et que ça devient douloureux. C'est pas facile, hein? On est vite happé par la pensée qui doute, qui est dans la peur, dans le rejet, dans le jugement. Pour qu'il y ait joie et intérêt, il faut qu'il y ait énergie. Il faut que la présence soit possible. Et nous, l'énergie est totalement contrecarrée lorsqu'il y a la somnolence. La somnolence implique un manque d'énergie au niveau de la présence totale. On a parlé de la somnolence. Nous pouvons toujours nous mettre debout, la reconnaître, nous mettre debout et sentir l'énergie qui revient, même si c'est pour un court moment. Waouh, ok, il n'y a plus la somnolence, il y a l'énergie. Et quelquefois, cette énergie se pose, elle s'accompagne de concentration. Et c'est bon parce que pour un moment, il n'y a pas besoin d'essayer, de faire d'efforts. C'est donné. Il peut y avoir un lâcher-prise de l'effort. L'investigation, c'est aussi quelque chose à explorer parce que l'investigation est souvent colorée par une envie que ce soit autrement. À terme, l'investigation, c'est de nouveau, quand on parle investigation, l'impression, c'est que c'est quelque chose qui n'est que mental. Mais en fait, pour pouvoir vraiment investiguer l'expérience, c'est-à-dire que ce soit une investigation sage, il faut qu'il y ait réceptivité, il faut qu'il y ait intérêt, il faut qu'il y ait un ancrage. Et alors, ça passe par le mental, mais ce que je vois, c'est la totalité de l'expérience. C'est en même temps un ressenti, parce que lorsque l'esprit se tend et arrive dans le jugement, l'investigation, c'est le fait de pouvoir, ah tiens, là, il y a du jugement. C'est de décoller de l'expérience. pour pouvoir la nommer et questionner d'une manière qui mène à la libération plutôt qu'à l'emprise. Et quelquefois, l'investigation est de nouveau double. Il peut y avoir la confusion et la clarté. L'expérience peut être dans une forme d'opacité, c'est pas clair, il y a une lutte, mais il y a cette qualité d'investigation qui fait que je vois la lutte, je vois, je ne suis pas totalement identifiée. Il y a cette beauté de la contemplation qui s'installe. Et puis, le calme. Lorsque nous avons entraîné l'esprit, le calme est quelque chose qui vient de plus en plus naturellement. Le corps est calme. Le corps peut juste être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut juste être aussi au quotidien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est tranquille, il peut aller rapidement, mais avec cette sorte de la pleine conscience est là, donc il y a une sorte de quelque chose qui est derrière, et le corps avance, mais il n'est pas tout seul. Le contraire du calme, c'est le stress. Et c'est vrai, pour moi, c'est toujours intéressant parce que quelquefois, surtout en ville, tout à coup, je suis prise par le stress. Et la meilleure manière pour moi de pouvoir retrouver le calme, c'est pas du tout d'arrêter de stresser, c'est de juste me dire, ok, vas-y, stresse à fond, mais consciemment. Et je stresse à fond, mais c'est totalement calme. Et ça devient en même temps joyeux, l'énergie est là, il n'y a aucune déperdition d'énergie, même dans le fait d'aller vite, du moment que cette qualité de la conscience calme s'installe. La concentration, je ne vais pas en parler longuement, c'est quelque chose de plus profond qui vient lorsque la pratique s'installe vraiment. Et il y a toutes ces joies ou formes d'extase liées au jhana. C'est une conscience qui ne bouge plus. Et l'équanimité c'est l'autre, le dernier des facteurs. Donc je le redis pour ceux qui ne le savent pas. Joie ou intérêt, énergie, investigation, pleine conscience. On pourrait dire que c'est le cœur. Et puis trois facteurs de calme. Le calme, la concentration et l'équanimité. Ça en fait sept. Et l'équanimité, elle est vraiment liée à ce qu'on appelle les Brahma-Vihara, c'est-à-dire au développement de la bienveillance par des paroles de metta, de la compassion par des paroles de compassion, et de la joie par des paroles de joie, l'antidote à la jalousie, que l'autre soit heureux, sans peur. Et d'une certaine manière, la pleine conscience sage, elle est totalement liée à l'équanimité. La conscience n'a plus besoin de faire des choix. Elle prend l'expérience telle qu'elle est, elle la contemple, elle la laisse être. Et alors, nous ne sommes plus dans ce paradoxe où j'aimerais être unifié, puis en même temps je ne veux qu'un côté de la main. J'aimerais bien avoir toute cette belle main. Mais cette belle main, elle est faite des 10 000 joies et des 10 000 peines. Et tant que je ne veux que les joies, je me coupe de l'unification, par définition. Je ne peux pas être dans la totalité. Et c'est un chemin qui est extrêmement exigeant, parce que la nature humaine a tellement besoin d'amour, elle a tellement besoin de cette unification, que lorsque l'expérience de séparation arrive, c'est totalement douloureux. C'est terrible. Je n'ai aucun amour pour personne. C'est terrible. Et personne n'a d'amour pour moi. C'est la mort. Et pourtant, avec la sagesse, nous pouvons arriver à cet endroit-là où il y a un lâcher-prise même de ce besoin d'amour. Et alors l'unification se passe. Ça n'est plus un moi qui a besoin d'amour. C'est un moi qui a lâché et qui est amour. Mais il n'y a pas d'autre chemin que d'aller dans ces zones d'ombre où tout à coup, ça devient terrible. C'est Ajahn Sumedho qui dit, non, c'est le Bouddha qui dit, la libération ne peut être trouvée qu'en nous libérant de nos fausses perceptions du moi. Et ces fausses perceptions du moi, c'est ce doute, je suis aimé ou je ne suis pas aimé, j'aime ou je n'aime pas. Ça, c'est vraiment tout au bout. Avant ça, il y a je réussis, je ne réussis pas, c'est déjà assez, un assez grand défi. On me blâme, on me loue. Et avec la pleine conscience, vous pouvez sortir de là et dire, ah ouais, il y a ça. Juste maintenant, il y a une expérience de non-amour, c'est vrai. Mais je ne meurs pas parce que il y a ce facteur de l'éveil, de la pleine conscience. Et je suis portée, malgré l'expérience, avec l'expérience. Et pourquoi est-ce que nous nous entraînons à cette présence ici et maintenant ? Ce n'est pas pour pouvoir être très compétent dans l'exercice de l'assise, mais c'est vraiment pour pouvoir le maintenir à l'extérieur et le mettre en priorité. Et mettre en priorité la pleine conscience, ça ne dépend pas de l'expérience. Ça dépend de notre sagesse, oui, de notre intention, du développement de notre intention, du développement du temps que nous passons pour que cette compétence soit vraiment efficace. Mais la compétence, elle est là. Il y a une jolie parole qui montre bien cette manière parfois étonnante que nous avons d'interpréter faussement les choses en termes de bien et de mal, alors que c'est toujours disponible, la pleine conscience est toujours disponible. Dans un monastère catholique, un novice va vers le prieur et lui demande « Lorsque je vais méditer dans le jardin, est-ce que je peux parfois fumer une cigarette ?»« Oh non, absolument pas !» fut la réponse du prieur. 2 jours plus tard, le novice était en méditation dans le jardin quand il vit un autre novice qui fumait une cigarette. Immédiatement, il s'approcha de lui et lui dit « Tu sais, le prieur interdit formellement de fumer dans le jardin. »« Mais non, » dit l'autre novice. « Quand je lui en ai parlé, il ne m'a rien interdit. »« Eh bien, moi, je lui ai demandé si pendant la méditation dehors, je pouvais fumer. » Il a dit « Non, absolument pas. » Ah, je vois, dit son ami. Moi, je lui ai demandé si lorsque j'allais dehors fumer une cigarette, je devais aussi méditer. Il m'a répondu, oui, absolument. Donc, lorsque l'esprit est en conflit, c'est le chemin. Lorsque l'esprit est en paix, c'est le repos. Mais ça n'est pas la libération. Une expérience spirituelle, ça n'est pas la libération. La libération, c'est une force de l'esprit qui va tendre vers ce qui est bénéfique, mais qui va accepter les paysages qui vont lui être offerts durant son voyage. Et bien sûr, nous tendons à la concorde, à la fraternité, mais ça n'est pas toujours possible. Et voir que ça fait mal lorsque ça n'est pas dans la cible et que c'est bon lorsque j'y suis, c'est ok. Mais ça fait mal, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça fait mal. Et ça change. Et avec les obstacles et les facteurs de l'éveil, nous pouvons bien voir comment le monde est imparfait et comment j'aimerais tellement qu'il soit parfait. Ça ne va pas changer. Bien sûr, j'aimerais qu'il soit parfait. Ça ne va pas changer. Mais je peux le voir et ne pas y croire. Et je peux donner toute la force de mon intérêt au facteur de l'éveil et toute la compassion aux obstacles lorsqu'ils émergent.